C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Bon, le gouvernement du Québec et les députés sont en réunion. C'est le caucus qui prépare la rentrée parlementaire. Le chef était de retour. Il a dit, on va arrêter les distractions, on va se concentrer sur les priorités et on va retrouver notre crédibilité. Les électeurs québécois vont nous aimer à nouveau. Est-ce qu'il a raison de penser que c'est la bonne approche puis c'est ça qu'il faut faire, Nathalie?
Ah, je dirais que le CAQ est dans le gros trouble, dans les sables mouvants même. C'est assez ironique de la part du premier ministre de dire que ben il souhaite se distancer des distractions. Et il a lui-même incarné la distraction à la CAQ avec plusieurs exemples, entre autres le fameux retour du troisième lien après l'élection dans Jean Talon. Le premier ministre fait ce que tout gouvernement fait en pareille circonstance, c'est-à-dire qu'un gouvernement aussi écartelé que la CAQ ben, juge bon de revenir à ses priorités, là, c'est-à-dire santé, éducation, économie, environnement et identité. Moi, je trouve que le plus grand défi de la CAQ, il n'est pas là. Je trouve que le plus grand défi de la CAQ, c'est celui de continuer d'être le gouvernement, tu l'as prononcé le mot, le magique, Paul, crédible. Parce qu'il y a un sentiment de plus en plus répandu dans la population qui voit la CAQ comme un gouvernement brouillon, un gouvernement qui annonce des réformes puis qui est jamais capable d'attacher ses fils. Puis ça se termine toujours en queue de poisson. Quelques exemples, la construction, la fameuse formation en construction. Imaginez-vous donc, on les paye 750 $ par semaine, mais il n'y a aucune obligation d'aller travailler dans le secteur de la construction après. Avez-vous déjà vu ça? Jamais vu ça. Et j'ai même appris que des gens qui sont là, des pensionnés là, de 70 ans, qui vont suivre la formation pour occuper leur journée, puis pour savoir comment rénover leur sous-sol là, après la formation. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a toujours bien des maudites limites, là. Puis les contribuables, les caves, ben, tu sais, on paye. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple qu'on pourrait donner, le plan de rattrapage du ministre Bernard Drainville. Tu sais, il nous annonce 300 millions. On a commenté le plan entre Luc, avec toi, Luc et moi. Puis c'était un bon plan, mais là, on se rend compte que, ben, il y a à peu près pas d'enseignants qui lèvent la main. Puis il y en a des exemples à la tonne comme ça. Alors, je pense que son plus grand défi, c'est de continuer qu'il est un gouvernement qui peut mener à terme toutes les réformes qu'ils ont promis. Parce que demain matin, s'il y a une élection, là, il en mange une maudite, là. La CAQ passerait de 90 sièges à 19 sièges, puis le PQ formerait un gouvernement minoritaire. Écoutez, passer de 90 sièges à 19 sièges, là, tu t'en manges une sincère. Alors, le gouvernement doit lutter contre ça, et je pense que cette perception, je dirais pas que les carottes sont cuites ce matin, mais à 2 ans d'élection, j'ai l'impression que le jello est en train de prendre là, de plus en plus.
Moi, je dirais que les carottes sont cuites. Ouais, à cause même de ton analyse, puis je partage la même, on est dans une ère de complexité. Là. On est dans une ère où il n'y a pas un pays là, qui voit une voie droite en avant de lui. Là. Que ce soit les États-Unis, en Europe, ici encore moins. Une voie où tu dis, OK, c'est ça qu'il faut faire. Parce que la complexité, regarde, les trois crises majeures, là, la crise du logement, la crise de la main-d'œuvre, puis l'inflation, qui sont des crises profondes, t'sais, qui ont des racines profondes. Tu peux pas traiter ça avec des questions, avec des réponses simples. Lui, c'est un homme de simplicité. C'est un homme, regarde, moi, là, sa méthode, il y a un problème, donne-moi mon marteau, là, va chercher mes clous, là. Ah ouais, on va le régler. Mais c'est pas, ça marche pas. Ça a marché, tu sais, bien. Il a fait preuve de ça dans beaucoup de domaines, là. On l'a vu. Tu sais, quand il est allé, il a dit, OK, on va donner 20 000 $ pour la formation des infirmières en cégep puis en université. On va donner de l'argent pour que les gens, ils s'inscrivent dans ce programme-là. Donne-moi mon marteau, va chercher mes clous, là. On va régler le problème. Mais ça a marché, là. Je veux dire, il y a eu quelque chose de fait pour les APTS, ça a marché. Il y a des fois.
Les préposés aux bénéficiaires aussi, ça. Oui, ouais, là, c'est ça. Oui.
Donc, il y a des fois où tu l'as vu se dire, bon, regarde, on arrête, on balaye tout, on s'en va par là. Puis c'est correct. Mais les trois crises majeures qui appauvrissent les Québécois, là, lui, les a amplifiées. La crise du logement, d'abord, en prenant pas en compte les effets de la crise du logement, en s'imaginant que c'est une affaire de Montréal, puis peut-être même des quartiers centraux de Montréal, s'imaginant que ça toucherait pas son électorat, il est passé par-dessus ça comme un jet, lui. Il a rien vu de ça. Il a rien vu de la profondeur de la crise du logement, alors qu'on voyait l'immigration. Son espèce de, tu sais, lui et puis Mme Fréchette, leur tentative de jouer avec les chiffres jour après jour pour nous faire croire qu'ils sont en train de trouver une solution, alors qu'ils approfondissent le problème, c'est tellement fâchant et ça enlève un truc qui est à la base même de la confiance qu'on donne à quelqu'un, c'est la crédibilité, la légitimité. C'est que tu dis, OK, c'est lui le gars. Il y en a des crises en ce moment, là, mais c'est lui le gars qui va passer à travers la crise.
Le problème, c'est que le gouvernement ne cesse d'augmenter les attentes. Prenons l'exemple en santé. Christian Dubé n'arrête pas de nous dire on va régler tous nos maux avec la création de l'Agence de la santé, un futur méga mammouth. Il y a à peu près personne au Québec qui pense qu'en hyper-centralisant les activités en santé, qu'on va régler le problème. Mais c'est ça, ils ont... Même chose en construction. Là, Jean Boulay nous dit on va réformer l'industrie de la construction. Puis là, on apprend qu'il n'a pas attaché ses fils quand il a annoncé sa formation en construction. Alors, c'est ça le problème. C'est que les attentes sont au plafond. Puis là, on se rend compte que ça fait point, point, point quand ça arrive sur le terrain.
Mais moi, j'ai une question. C'est vrai tout ça, mais qui va incarner la grogne? C'est-à-dire que le corridor des grogneux va être dirigé par qui? Dans le sens où, tu sais, hier, j'ai fait Pierre Poilievre. Et sérieusement, là, il est moins kaki qu'il était. Il a changé son look, il commence à écouter ses conseillers, il parle d'un ton calme, puis il répond très clairement. Bon, vous baissez les impôts. Tu sais, on peut être d'accord ou pas, là. Mais il incarne la voix de la contestation par rapport à un Justin Trudeau qui dépense, qui parle pis on comprend rien, puis les ministres qui ont des langues de bois, puis tout ça. Il y a 12 points d'avance dans les sondages. Là, tu sais qui au Québec va incarner l'alternative? Les libéraux? Le PQ? Québec solidaire?
D'ailleurs, François Legault a dépeint déjà ses adversaires en disant ils sont l'incarnation du statu quo. Les trois partis de l'opposition de l'Assemblée nationale sont l'incarnation du statu quo. Alors, c'est pour ça que lui s'impose comme le grand réformateur. Mais les attentes, encore une fois, sont tellement élevées que le risque est très... Dans le fond, il joue le tout pour le tout en disant on est le seul gouvernement qui peut entreprendre les grandes réformes que notre société a besoin, mais en même temps... Il y a des moyens qui ne sont pas à la hauteur des défis.
Moi, je dirais que ce serait quelqu'un qui aurait... tu sais, il y a deux possibilités. Il y a celle que tu mentionnes. D'ailleurs, tout le monde m'a parlé d'entrevue que tu as faite avec Poilievre. Tout le monde en parle. C'est vrai qu'il est apparu comme extrêmement ministrable, qu'il est apparu comme une alternative vraiment crédible. Alors, cette possibilité d'un gars qui, depuis des années, dit... Là où on s'en va, ça fonctionne pas. Il y a trois problèmes, je vais les régler. Je vais baisser vos impôts, je vais créer des logements, puis il y a des pieds à terre, etc. T'sais, bon, au moins, s'il fait ça, tu sais, bon. Donc, il y a cette option-là. Puis là, l'autre option, une option qui correspond plus au profil de Paul Saint-Pierre Plamondon ou Gabriel Nadeau-Dubois, ça serait de dire, on prend les problèmes un par un, puis on va vraiment nuancer en expliquant à la population, je vous annonce qu'on va être capable de corriger 20 % de ce problème-là, pas 100 %. Allez pas vous imaginer que Poilievre va régler 100 % du problème du logement quand il va arriver au pouvoir. Arrêtez pas vous imaginer que quelqu'un est capable de régler la crise de la justice en ce moment au Québec, où on a des milliers de personnes en attente de jugement qui dépassent les délais. Allez pas vous imaginer qu'on va régler le problème de la disponibilité des employés et des travailleurs au Québec avec un coup de baguette magique. C'est pas vrai.
Moi, sur Pierre Poilievre, j'ai écouté l'entrevue aussi. Il est très habile, hein. Il sait sur quelle corde jouer.
Ah oui, mais il tape sur le maire de Québec puis il rend hommage au maire de Saguenay puis
oui,
de.
Tout à fait.
Non, mais c'est ça.
Mais faut juste se rappeler que à des solutions, à des problèmes complexes, il n'y a pas nécessairement de solutions toutes simples, hein. Et c'est ça que propose Pierre Poilievre. Le populisme, avec le populisme vient la simplicité.
Mais ça marche ailleurs dans le monde.
Ah ben, tout à fait d'accord. Mais moi, je dis simplement, il faut se méfier. Ça, c'est une chose. Puis il n'y a pas encore gagné au Québec. Je sais que tu es plus optimiste que moi, là, mais il n'y a pas encore gagné au Québec. Parce que le Québec, par rapport aux autres provinces, fait office d'irréductible gaulois. Pour ce qui est du Québec, tu cherches celui qui va incarner là, l'opposition jusqu'à maintenant. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui incarne l'opposition parce que c'est lui qui est perçu comme le premier ministre en devenir. La preuve, s'il y avait une élection demain matin, le PQ serait minoritaire.
OK, mais l'option de la souveraineté, ça va être un obstacle?
Oui,
ça
je suis d'accord avec toi.
Tu sais, parce que, tu sais, tant dans les sondages corrects, mais le jour de l'élection, puis mettons que tu n'es pas souverainiste, mais tu veux te débarrasser du gouvernement.
Ouais, ouais, mais quand ouais. Quand est-ce que le Brexit a été populaire en Angleterre? Quand est-ce que les gens ont dit, ah, oh, ben là, on va se séparer de l'Europe? Quand est-ce? Quand l'immigration a explosé.
Toi, ouais. Tu penses que ça va être ça?
Ben, ça pourrait être... Non, moi, je dis pas que ça va être ça.
Non.
Mais c'est, je dis que c'est la piste. C'est-à-dire que on est en train de se faire envahir. Là, ça, c'est la phrase utilisée en Hongrie, en Serbie, en France, en Italie, en Angleterre.
Au Brésil.
Fait que là, ça, c'est peut-être la voie qui va faire que le pays pourrait devenir indépendantiste.
Ah. On s'arrête là-dessus. Au retour, 15 nouveaux juges. C'est 14 nouveaux postes au total. Est-ce que c'est suffisant pour réduire les délais en matière criminelle?
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, 14 nouveaux postes de juges, un poste qui est comblé, ce qui en fait 15 au total. Est-ce que c'est suffisant pour amener la réduction des délais en matière criminelle? Luc?
Non, pas en tout. Par contre, c'est une belle avancée. C'est-à-dire qu'il y a eu une négociation. On l'a vu avec Mme Rondeau, maintenant avec M. Richard. Ça a déboulé. Ça a débouché. Ils se sont entendus. Non seulement ils sont entendus pour nommer 14 nouveaux juges, ils se sont aussi entendus pour faire siéger les juges un peu plus longtemps. T'sais, il y avait eu 132 jours qui étaient à l'époque avant que Mme Rondeau décrète que les juges vont siéger une journée de moins. Là, c'était tombé à 104. Ils m'ont rajouté 17. OK, c'est pas si pire que ça. Mais il y a beaucoup à faire avant que ça règle le problème, parce que le problème vient pas juste des juges, le problème vient de la Cour. On a beaucoup de personnel manquant à la Cour, là, t'sais, des traducteurs, greffiers, audienciers, etc. Puis, ils gagnent des salaires de misère, ils gagnent en bas de 40 000 $ souvent. Et moi, j'avais demandé à Jeannette Barrette, comment vous allez trouver une solution? Il dit, j'ai fait mes représentations auprès du Conseil du Trésor, mais il n'a pas obtenu gain de cause dans les conventions collectives actuelles. Là, il n'y a pas eu, à moins je me trompe, il n'y a pas eu une annonce qui dit pour tout le personnel de cour, on a une entente exceptionnelle avec, comme on a par exemple pour les psychologues, tu sais, avec des primes de 10 à 15 supérieures aux ententes faites avec le reste des employés. Alors, est-ce que les augmentations signées lors de la convention collective vont suffire? Moi, je pense que non. Je pense que non. Et il y a un alourdissement de la tâche, là, je reviendrai après, qui s'ajoute à tout ça.
Ben, est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est une excellente nouvelle. Le ministre a pris une décision, en fait, une décision historique. C'est comme ça qu'il l'a qualifié, puis il a raison de le faire. La dernière fois qu'il y a autant de nominations qui ont été faites par un ministre, ça date de 2016, au moment où les tribunaux étaient submergés là, par les délais. Et après ça, il y a eu l'arrêt de la Cour suprême sur Jordan. Mais donc, c'est une excellente nouvelle. C'est une bouffée d'oxygène pour notre système de justice. Et tu l'as dit, Luc, là, c'est tout ça est en lien avec l'entente que conclut l'ex-juge en chef de la Cour du Québec et le ministre. Là, on porte le nombre de juges à la Cour du Québec, ça passe de 290 à 333. Et pour la Chambre criminelle, le nombre de juges passe de 163 à 178. Alors, évidemment, il va y avoir un effet. Mais plus concrètement, dans cette entente qui était convenue en avril dernier entre le ministre et Madame Rondeau, dans les objectifs pour la Chambre criminelle et pénale, on parle d'un pourcentage de 87,7% de causes se terminant à l'intérieur d'un délai de 18 à 30 mois ou 30 mois. Ça, c'est fondamental. En fait, et c'est énorme là, comme objectif. Alors, le ministre dit, bon, on commence par nommer 15 nouveaux juges et puis, on va faire travailler les juges un peu plus longtemps. Mais il y a un autre élément qui manque à l'équation, c'est les greffiers et les greffières et les constables. Les greffiers, ça relève du ministre de la Justice. Alors, ils sont conscients que c'est la prochaine étape. Depuis 2015, il y a 284 greffiers qui ont donné leur démission, puis il y en a 153 qui sont partis volontairement. Alors, il y a vraiment eu une saignée chez les greffiers et les greffières. C'est impossible pour les juges de travailler sans être accompagnés de greffiers et de greffières. Alors ça, c'est le prochain grand défi. L'autre défi, c'est les constables. Ça relève du ministre de la Sécurité publique. Bon, je sais que les deux se parlent, mais ça, c'est un tout. Alors, il faut se réjouir de cette annonce. Ça n'a pas fait l'objet d'une grande attention médiatique parce que c'est pas encore très concret. On va le voir, là. L'objectif d'arriver à 87,7% de causes se terminant à l'intérieur de 18 ou 30 mois, c'est pour le 31 décembre 2025. Fait qu'on a encore 2 ans devant nous pour réduire les délais entre 18 et 30 mois. On a déjà tenté de relever ce défi-là dans le passé. On n'y est pas arrivé. D'ailleurs, cette crise que vit le système de justice, là, c'est pas la première fois qu'on vit ça, là. Depuis le début des années 2000, c'est peut-être quoi la deuxième ou troisième crise qu'on vit de cette ampleur-là.
Tu sais, quand je disais tantôt, là, le gouvernement de Legault, la CAQ, la tentative, ce que va me chercher mon marteau si on le régler, c'est un peu ça qui est arrivé avec le système de justice. La première solution de Jeannette Barrette, c'était quoi? Augmenter le salaire des juges. Sont passés de 258 000 à 310 000 dans l'espoir qu'ils travaillent plus le soir et la fin de semaine. C'était ça, là, la patch initiale. Fait que là, ils ont augmenté leur salaire de plus de 25 %, 26, 27. Ils demandaient 42, les juges. Mais ils ont augmenté beaucoup leur salaire. Puis après ça, ils sont allés chercher des juges en supplément. Puis après ça, tu sais, il y a un approfondissement de la crise. Je commence par une patch, ça marche pas. Après ça, je fais autre chose. À la place de dire, ouh, là, on a un problème profond devant nous. Et puis, on va y aller avec l'ensemble des étapes. C'est juste maintenant qu'on apprend, depuis quelques mois, qu'il y a eu une vraie prise de considération, une vraie prise de conscience. La prise de conscience, pourtant, il y avait un rapport, le rapport Galarneau, qui disait, Attention, feu rouge, parce que la liste de ce qu'un juge a à faire maintenant est infiniment plus importante que ce qu'il avait à faire
complexe,
dans le passé. Puis il disait, l'alourdissement de la tâche, là, l'augmentation et l'assistance obligatoire aux personnes non représentées, le temps requis pour gérer la bonne marche du dossier afin de rencontrer les délais, l'impact de la Charte canadienne des droits et libertés, le traitement de la preuve, qui a ralenti beaucoup les opérations policières, et puis la communication de la preuve aussi. Donc, la forme écrite des jugements, tout a changé.
Mais l'accès à la justice, là, de façon générale, c'est un problème. Parce que l'aide juridique couvre une partie. Si t'as de l'argent, t'es correct. Mais combien de gens se représentent en cours? Pas parce que ça leur tente, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un avocat.
Mais ça date pas d'hier, ça,
non,
Paul.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans des causes complexes, ouais, ça fait que ça retarde des procédures. Par
effectivement, mais et puis aussi les stratégies déployées, soit par la couronne ou pour la défense, qui aussi peuvent allonger les délais. La couronne qui dit, ben non, on va mener une enquête préliminaire, on n'amène pas une. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de raisons qui sont évoquées dans les palais de justice.
Quand un juge dit à des parties, vous n'êtes pas capable de régler ça ailleurs qu'ici, c'est pas normal. Ça ne doit pas nécessairement toujours se ramasser devant un juge.
Ah, je suis d'accord avec toi. Mais Luc, contrairement à ce que tu penses et que tu crois, le ministre actuel de la Justice est le ministre qui a fait le plus grand nombre de nominations depuis qu'il est en poste. En fait, depuis 10 ans, il y a 47 postes de juges qui ont été ajoutés à la Cour du Québec et 25 qui ont été créés par le ministre actuel. Ce que je ne savais pas, c'est ce qu'on m'a confirmé, mais l'impression qu'on a de Simon-Jean Barrette, c'est qu'il s'est beaucoup chicané avec l'ex-juge en chef de la Cour du Québec.
C'était loin d'être.
Je sais, mais Luc, c'était loin d'être édifiant. Moi, j'estime que l'exercice du leadership en politique ne passe pas par la confrontation quand t'es ministre de la Justice. Puis ça doit être le ministre le moins partisan, là, tu sais, du gouvernement. Ben, on a perdu plusieurs mois, là, avec cette bataille entre.
Non, ben oui, mais la juge qui dit, mais moi, telle loi s'applique pas à moi. Le bilinguisme, ça s'applique pas à moi. La charte de la laïcité, ça s'applique pas à moi.
La nouvelle, c'est que bon, ils ont fini par s'entendre. Ouais. Et puis la juge en chef est partie avec une entente qui lie la Cour du Québec avec le gouvernement. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que ces 15 nouveaux juges. D'ailleurs, j'ai appris que pour nommer des nouveaux juges, pas des remplaçants, si tu veux augmenter le nombre de juges à la Cour du Québec, il faut que tu changes la loi. Alors que, tu sais, parce qu'il y a des juges qui partent à la retraite, là, tu peux les remplacer. Mais quand tu veux nommer des nouveaux juges, il faut que tu changes la loi. Donc, c'est un processus qui est quand même assez lourd.
Et moi, je voudrais pas rajouter trop de temps, là, mais j'aimerais ça qu'un jour, un juge vienne nous expliquer, là, vraiment, la gestion de la preuve. Là. Est-ce que la gestion, la nouvelle façon de gérer la preuve, communiquer la preuve, etc., puis les délais dans la communication de la preuve à la partie adverse, si ça permet une justice équitable? Combien de cas sont abandonnés par la police? Combien de cas ne seront jamais engagés par la police? Et en justice civile, là, c'est le doute raisonnable. En justice criminelle, c'est l'absence complète de doute. Ben, j'aimerais ça que quelqu'un vienne nous expliquer si la...
Mais au civil, c'est la prépondérance de la preuve.
Mais c'est plus facile. Est-ce que vraiment on est capable de faire marcher un système de justice avec les règles qu'on s'est données? On est-tu capable? Y a-tu quelqu'un qui y arrive?
Ben, il y a des dossiers qui se règlent.
Oui, mais
il y a des dossiers
beaucoup
qui se règlent.
C'est quoi le nombre de milliers de dossiers?
Non, mais quand tu vois des opérations policières, tu dis pourquoi ils font des descentes puis qu'ils n'arrêtent pas le monde de suite? Parce que la minute que tu accuses, le chrono part. Fait que t'attends d'aller chercher toute la preuve. Puis là, tu dis, OK, là, j'ai ma preuve, puis là, je peux accuser. Mais c'est pour ça, sinon, tu te ramasses dans un cul-de-sac assez rapidement. Merci à tous les deux.
C'est 23.